Bienvenue pour cette nouvelle émission consacrée à l'histoire. Nous allons cette semaine évoquer la figure d'Anne de France, dont le nom peut-être vous est peu connu, voire inconnu, alors même qu'elle a joué un rôle essentiel dans l'histoire du royaume de France, mais nous allons le voir aussi dans l'histoire de l'Europe. Anne de France qui a été quasiment reine de France, puisqu'elle a exercé la régence à la mort de son père Louis XI, en attendant que son frère Charles VIII devienne majeur. Et Anne de France qui a été une femme de pouvoir, une femme de gouvernement, et nous allons le voir, de la Bretagne à la Savoie, en passant par la ville de Moulins et le Bourbonnais, elle a joué un rôle essentiel dans cette France et cette Europe du début du XVIe siècle. Pour parler d'Anne de France, je reçois cette semaine Aubrey David Chapy, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être venu à notre micro. Vous êtes agrégé d'histoire, docteur en histoire moderne, vous travaillez spécialement sur l'histoire des femmes au XVe et au XVIe siècle, et vous venez de publier aux éditions Passé Composé Anne de France, gouvernée au féminin à la Renaissance. Et puis vous avez également organisé une exposition sur Anne de France qui a permis comme ça aussi de la faire connaître auprès d'un public varié. Alors Anne de France, je vous le disais en introduction, ce n'est pas la femme de pouvoir la plus connue. On a tous en mémoire Catherine de Médicis, Marie de Médicis également. Anne de France est un peu oubliée. D'où vient cet oubli? Alors que nous allons le voir pendant cette émission, son rôle est absolument essentiel.
Alors, Anne de France, pour la replacer un petit peu dans l'histoire, c'est la fille de Louis XI, la sœur de Charles VIII, et donc elle a vécu à cheval sur le XVe siècle et le XVIe siècle. Elle a, comme vous l'avez dit, exercé un pouvoir tout à fait extraordinaire en tant que quasi-régente pour seconder en fait son frère Charles VIII à la tête de l'État. Cependant, elle n'avait pas de titre de régente et plus encore, en fait, à mon avis, le fait qu'elle ait été oubliée et le fait qu'elle n'a jamais été reine de France. Elle a été très probablement oubliée parce qu'elle a vécu de manière quasi contemporaine avec Anne de Bretagne, et Anne de Bretagne, deux fois reine, évidemment, l'a surpassée.
D'autant que les relations entre les deux ne sont pas très bonnes, on va le voir, notamment parce que Anne de France est celle qui a permis l'arrimage définitif de la Bretagne au Royaume de France.
Alors, Anne de France, n'est au départ pas véritablement une partisane de la réunion de la Bretagne à la France. En effet, son frère Charles VIII est marié. Hein. Alors, le mariage n'a pas été consommé parce que les deux époux sont trop jeunes, mais il est marié à Marguerite d'Autriche, la fille de l'empereur Maximilien d'Autriche. C'est une alliance extrêmement intéressante, une alliance qui a été conclue par Louis XI et qui fait partie, donc en fait, du grand dessein politique de Louis XI, à savoir le rattachement de la Bourgogne, notamment à la France, mais pas seulement la Bourgogne, également une partie de la Flandre, du nord de ce qui est actuellement le nord de la France. Et donc, en fait, les deux petits-enfants sont mariés. Or, eh bien, il devient urgent dans les années 1490 en fait de rompre cette alliance et de changer de trajectoire pour aller vers l'ouest, puisqu'Anne de Bretagne s'est secrètement mariée avec Maximilien d'Autriche, le duc d'Autriche, et elle s'est mariée par procuration, donc le mariage n'a pas non plus été consommé. Il faut absolument le rompre puisque la France est encerclée par la Bretagne et par l'Empire. Et Anne de France va donc organiser le mariage de Charles VIII avec Anne de Bretagne, duchesse de Bretagne. Voilà, alors qu'elle n'y est pas favorable à l'origine. C'est elle qui va former Anne de Bretagne véritablement, hein, être reine de France, et qui va vivre à ses côtés véritablement pendant plusieurs années. Et si on doit comparer le pouvoir de ces deux femmes, eh bien c'est Anne de France véritablement qui est beaucoup plus puissante, hein, qui a le gouvernement du royaume entre ses mains, alors que Anne de Bretagne n'a jamais véritablement exercé le pouvoir politique à la tête du royaume.
Alors effectivement, vous évoquez la Bourgogne, on a oublié aujourd'hui à quel point la question bourguignonne était une question essentielle dans cette fin 15e, début 16e siècle, notamment parce que la Bourgogne, ce n'est pas que la région actuelle, vous l'avez dit, ça prend les Flandres, la Bourgogne, une partie de l'Autriche, et ensuite ça a donné lieu à la dynastie des Habsbourg qui ont été également présents en Espagne. Donc le royaume de France a toujours cette crainte d'être pris en tenaille, et sa politique est donc de briser cette tenaille.
Voilà, c'est ça. La France, d'ailleurs, si on rappelle un petit peu comment Anne de France arrive au pouvoir, elle arrive en pouvoir en 1483 à la mort de son père. Elle va donc essayer de s'imposer comme régente, on l'a dit, de Charles VIII, mais le pouvoir lui est revendiqué par le premier prince du sang, le duc d'Orléans, premier prince du sang donc et futur Louis XII, qui va mener contre elle une guerre pour lui reprendre véritablement le pouvoir, et il va s'allier avec le duc d'Autriche, Maximilien, et avec le duc de Bretagne. Donc la France, en 1484, est en guerre, le roi est en guerre contre la Bretagne et contre l'Autriche, et à cela se greffe une sorte de guerre civile, puisqu'on a des princes rebelles qui vont donc faire la guerre à Anne de France. Donc en fait, il y a un véritable danger qui vient de Bretagne et qui vient aussi d'Autriche. C'est pour ça qu'on essaye sans cesse, en fait, de faire des alliances qui sont des alliances de paix, enfin, en tout cas, qui sont voulues comme des alliances de paix et qui doivent, eh bien, aboutir à chaque fois, à des traités, etc. Mais en fait, ça ne marche jamais. La France, donc, est prise en tenaille véritablement entre ces espaces.
On est aussi au sortir de la guerre de Cent Ans. Louis XI est un petit peu celui qui passait de l'une à l'autre, enfin de la fin de la guerre de Cent Ans à cette époque de la Renaissance. Est-ce que la question anglaise se fait encore sentir sur le royaume, ou est-ce qu'on est vraiment passé à la question bourguignonne, qui d'ailleurs elle-même est née durant la guerre de Cent Ans?
La question anglaise est relativement évacuée, si je puis dire, dans la mesure où, en fait, c'est Anne de France qui contribue à mettre Henri VII, donc de la nouvelle dynastie Tudor, sur le trône. En fait, c'est elle qui lui envoie donc une armée et des soldats et qui permet donc de faire naître cette nouvelle dynastie. La dynastie, donc enfin, le roi d'Angleterre, Henri VII, est donc relativement favorable à Anne de France en cette fin du XVe siècle. C'est finalement un peu la première fois que on n'a pas trop à craindre le voisin anglais. Et véritablement, la menace, très précisément sous le règne d'Anne de France, vient donc du nord avec la Flandre, de l'ouest avec la Bretagne et au sud de Ferdinand d'Aragon, donc avec l'Espagne, ce qui fait déjà beaucoup.
Comment est-ce qu'elle a été formée à Anne de France dans son enfance pour le gouvernement? Est-ce que dès le début, Louis XI a compris qu'elle allait jouer un rôle politique et donc il fallait la préparer à cela? Ou est-ce qu'elle s'est formée un peu sur le tas au gré des circonstances?
Alors, Anne de France, c'est donc la fille de Louis XI, mais aussi de Charlotte de Savoie. Charlotte de Savoie, c'est une reine peu connue, mais bibliophile, qui s'est donc préoccupée de bien faire, de bien éduquer ses enfants, et notamment ses filles, Anne de France et Jeanne de France, devenues saintes plus tard, hein, comme son nom donc, de Sainte Jeanne de France. On leur a donc fourni des précepteurs qui leur ont appris plus que des rudiments, hein, mais véritablement donc la morale, c'est évident, la religion aussi, mais également la philosophie, puisque Anne de France, dans ses écrits, et notamment dans ce qu'elle a nommé ses enseignements à sa fille, parle du philosophe avec un P majuscule, c'est-à-dire d'Aristote. Elle cite donc Aristote, elle cite également Saint-Augustin, elle connaît aussi très bien Christine de Pisan, qui est une théoricienne du politique du début du XVe siècle, qui a écrit des miroirs aux princes, hein, c'est-à-dire des traités de bon savoir-vivre à la cour, et pas seulement savoir-vivre, aussi savoir gouverner. Anne de France, c'est donc une femme qui a reçu une éducation très poussée. Mais elle n'est pas destinée en soi à exercer le gouvernement. Si Louis XI avait vécu plus vieux et avait légué son royaume à un fils majeur, elle n'aurait pas forcément eu besoin de gouverner, en fait, et d'exercer cette quasi-régence. Donc, elle s'est formée aux côtés de son père, qui l'apprécie énormément parce qu'elle est très intelligente, parce qu'elle est fine et qu'ils ont des qualités en commun, ou au moins un caractère en commun. Il l'apprécie, il vit avec elle à ses côtés, et donc elle se forme auprès de son père à la cour et aussi auprès de son époux Pierre de Beaujeu, que son père lui a choisi. Pierre de Beaujeu, c'est comment dire, c'est le fils du duc de Bourbon, c'est aussi le frère du duc de Bourbon, et bien qu'il soit cadet, eh bien il devient duc de Bourbon lui-même en 1488 à la mort de son frère sans héritier. Elle est donc mariée avec un homme qui a 20 ans de plus qu'elle, qui est expérimenté dans l'art du gouvernement, et donc elle apprend cet art du gouvernement aux côtés à la fois de Louis XI et de Pierre de Beaujeu.
Alors, vous évoquez la famille de Bourbon, et ça, effectivement, c'est l'introduction de cette famille dans l'histoire du royaume de France. On sait que les Bourbons sont montés sur le trône par la suite, et vous montrez dans votre ouvrage à quel point cette famille joue un rôle important, notamment parce que Anne de France s'installe dans la capitale du Bourbonnais, qui est la ville de Moulins.
Oui, la famille de Bourbon est une famille essentielle, comment dire, en France, entre la fin du XVe et le début du XVIe siècle. Il y a finalement, depuis la mort de René d'Anjou, eh bien, il n'y a plus beaucoup de duchés indépendants en France. Hein. En plus, avec le mariage d'Anne de Bretagne avec Charles VIII, eh bien, la marche de la réunification de la Bretagne à la France est en cours. Hein. Elle sera véritablement, comment dire, ça sera véritablement chose faite uniquement sous le règne de François Ier, mais tout de même, c'est un bon début. Et donc, en fait, le duché de Bourbon, eh bien, c'est un des derniers grands duchés au cœur du royaume qui soit indépendant. Et Anne de France devient donc duchesse de Bourbon en 1488. Elle va donc quitter en quelque sorte la cour hein, de France, sans jamais vraiment la quitter complètement, hein, mais elle va aller s'installer à Moulins. Et à Moulins, elle va essayer d'installer, comment dire, une cour qui soit fastueuse, hein, qui soit un peu digne de celle de la cour de France. Anne est une fille de France, c'est un mot très très important, hein, d'ailleurs, elle est souvent connue sous le nom d'Anne de Beaujeu, mais elle-même ne signe qu'Anne de France, parce que c'est un nom de pouvoir, un nom de prestige. Elle est donc Anne de France, fille de roi, sœur de roi, et elle doit avoir une cour qui soit prestigieuse et à la hauteur de sa naissance, du sang royal qui coule dans ses veines. Elle installe donc avec son époux une cour tout à fait magnifique, qui va rassembler des artistes de renom. Elle fait construire un palais qui est hors norme, le premier palais Renaissance en France, et elle va développer donc cette cour pendant tout le début du XVIe siècle.
Alors l'occasion d'ailleurs pour nos auditeurs de découvrir la ville de Moulins, si ils ne la connaissent pas, c'est aujourd'hui un petit peu situé dans la diagonale du vide, ce qu'on appelle la diagonale du vide, mais en réalité il y a de très nombreuses richesses culturelles et artistiques dans ces régions. On n'est pas très loin, à quelques kilomètres de l'abbaye de Cluny, Nevers un peu au nord. Donc c'est une région qui est d'une grande richesse, et vous évoquez la cour de Moulins. Qu'est-ce que c'est qu'une cour au début 16e siècle, ce qu'on a appelé par la suite la Renaissance? Comment est-ce que ça se caractérise une cour? Est-ce qu'on a le pouvoir politique, le pouvoir intellectuel, les pouvoirs artistiques? Comment est-ce qu'elle
Oui.
est organisée?
Alors la cour d'Anne de France, c'est une cour, comme je vous l'ai dit, qui se veut un petit peu finalement une modélisation de la cour de France. Alors c'est une cour où l'on exerce le pouvoir. Anne de France et son mari, hein, comment dire, exercent véritablement un pouvoir politique. Ils rendent justice dans leurs terres, ils battent monnaie, etc. Donc ça, c'est un lieu de pouvoir. Hein. C'est aussi donc une cour véritablement à la manière italienne, au sens où on fait venir beaucoup d'artistes. Je l'ai dit tout à l'heure, donc mais si je développe plus précisément, un artiste notamment qui est connu sous le nom qui a été longtemps connu sous le nom de Maître de Moulins, qui est aujourd'hui identifié à Jean Hay, et qui est l'auteur donc du retable de la Vierge Glorieuse ou triptyque de Moulins. Alors aujourd'hui, on ne peut pas le voir si l'on va à Moulins, puisqu'il vient de partir en restauration, et il sera certainement montré au Louvre par la suite, mais c'est quand même le joyau de la cour de Moulins. Vous avez également des sculpteurs, hein, vous avez des écrivains, notamment on avait quand même Clément Marot, on avait Jean Hockeghem qui était à la cour d'Anne de France pour ce qui concernait la musique. On a vraiment des gens de très très haut niveau. Jean Péréal aussi, peintre du roi, est venu pour travailler avec Anne de France. Et donc on a à la fois des individus qui sont porteurs de l'art de la Renaissance flamande, et aussi on va avoir aussi comment dire, des artistes qui viennent d'Italie. Elle va faire travailler notamment dans ses jardins de nombreux Italiens que son frère lui ramène en fait de retour des guerres d'Italie. Et si je rebondis sur ce que vous avez dit à propos de Moulins, en fait, aujourd'hui, en effet, Moulins, c'est un peu dans un centre un petit peu perdu dans la France. Et à l'époque, en fait, c'est pas du tout le cas, puisque Moulins, c'est à mi-chemin, en fait, entre Lyon et Lyon et la cour de France qui s'étale en fait, enfin qui est itinérante hein, dans le Val-de-Loire. Donc on est entre le Val-de-Loire et Lyon. Et Lyon, c'est l'endroit d'où on part pour aller en Italie. Donc on est sur le chemin de l'Italie. Donc en fait, tous les ambassadeurs s'arrêtent à Moulins quand ils vont à la cour de France. Elle reçoit donc des Italiens, elle reçoit des ambassadeurs qui viennent de partout, qui viennent la saluer et puis qui viennent parler de politique avec elle. Et dernière chose aussi à la cour, eh bien on trouve de très nombreuses princesses, puisque c'est aussi un instrument de pouvoir et de prestige que de montrer eh bien qu'on est entouré d'une cour féminine importante.
Alors, dans l'ouvrage que vous avez publié aux éditions Passé Composé, l'éditeur a permis qu'il y ait un carnet photographique au centre de l'ouvrage qui permet d'abord de voir le triptyque que vous évoquiez sur la
Oui.
Vierge Marie de Moulins et puis beaucoup d'autres photos, des enluminures, photos également du palais d'Anne de France. Donc, ça permet au lecteur de se porter dans la ville de Moulins et de voir ainsi, d'avoir les visuels de ce que vous évoquez dans l'ouvrage. Alors, vous évoquez également le fait qu'elle est liée par sa mère, donc à la Savoie. Est-ce que ça a été aussi un enjeu politique? Est-ce que ça a participé aussi à son action politique que cette région de la Savoie?
Alors, de manière finalement un petit peu détournée, oui, Anne de France a des liens avec sa famille maternelle, de toute évidence. Et surtout, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que la sœur de Louis XI, hein, donc sa propre tante Yolande de France, est duchesse de Savoie aussi. Donc, en fait, il y a des membres de la famille de France qui sont mariés en Savoie et des membres de la famille de Savoie qui sont mariés avec des princes français. Donc, les liens sont très, 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 très étroits. Et la Savoie va être un pivot, en fait, vers l'Italie. Et, comment dire, un véritable soutien lors des guerres d'Italie. Bien que Anne de France ne soit pas très favorable aux guerres d'Italie que va mener son frère Charles VIII, parce que eh bien, cela représente un danger pour le roi qui part en personne, et puis aussi parce que des guerres coûtent cher et qu'on n'en connaît jamais l'issue, et en l'occurrence, ben, eh bien, ça ne sera pas, comment dire, une grande gloire que ces guerres d'Italie. Voilà.
Que devient Anne de France lorsque son frère devient roi de plein titre? Est-ce qu'elle continue son action politique ou est-ce qu'elle se retire sur ses terres du Bourbonnais pour participer aux questions artistiques?
Non. Alors, elle continue à exercer le pouvoir. Anne de France reste toujours relativement présente, même sous le règne de Louis XII. Hein. Quand Louis XII se remarie pour la troisième fois en 1514, hein, eh bien, il confie sa jeune épouse à Anne de France pour qu'elle lui apprenne quand même à devenir une reine, les manières du royaume, etc. Donc Anne de France reste toujours présente. Évidemment, elle n'exerce plus le pouvoir aussi directement que pendant sa quasi-régence. Mais lors des guerres d'Italie, c'est Anne de France et Pierre de Bourbon qui sont, comment dire, qui se voient conférer la lieutenant général du royaume en l'absence du roi. Alors, c'est Pierre de Beaujeu qui a le titre, parce que c'est lui qui est l'homme, mais Anne de France est à ses côtés pour gouverner. Donc, elle reste véritablement à la tête du royaume, ou au moins elle garde véritablement une préséance jusqu'au début du règne de François Ier, en fait, c'est-à-dire jusqu'en 1515. Et là, Louise de Savoie, en fait, va véritablement tenter de l'éclipser.
Vous évoquez le rôle des livres dans votre biographie, le fait qu'Anne de France est une personne qui lit, qui a pensé également la politique. Quel est ce rôle essentiel des livres et comment est-ce qu'elle s'en sert, elle, pour exercer son pouvoir?
Alors, c'est une princesse qui commande énormément de livres, qui commande aussi énormément, non seulement de manuscrits, mais également d'imprimés, hein. Elle est l'une des premières princesses à commander des imprimés dans de très grandes proportions. Et c'est la seule avec Louise de Savoie à faire cela. Donc on reconnaît véritablement, on perçoit son intérêt pour le livre déjà en tant qu'objet, mais aussi en tant qu'objet de pouvoir, parce qu'à travers les livres, eh bien, elle va pouvoir se faire représenter par les écrivains et les historiens notamment qui sont à son service, comme un personnage historique et notamment comme un personnage salvateur pour le royaume, puisqu'elle a gardé le royaume pendant des temps difficiles, et eh bien elle apparaît comme une figure salvatrice, au même titre que Clotilde, que Jeanne d'Arc, voilà. Donc en fait, elle se sert véritablement aussi des livres pour faire écrire l'histoire et pour y apparaître comme un personnage de premier plan.
C'est quelque chose qui est effectif chez elle, le fait de se présenter comme, pas dire la successeur, mais en tout cas dans les pas de ces reines ou de Jeanne d'Arc qui ont eu un rôle politique important.
En tout cas, ceux qui écrivent pour elle utilisent ces comparaisons véritablement. On a un certain Regnault Havard qui écrit un petit abrégé d'Histoire de France pour Anne de France dans les années 1489 et qui dit véritablement que, eh bien, Francia, c'est la décomposition de le I, c'est I, Jeanne, le C, c'est Clotilde et le A, c'est Anne de France. Donc véritablement, oui, c'est utilisé. Alors, est-ce qu'elle-même le demande? On ne le sait pas, mais en tout cas, les gens qui sont autour d'elle utilisent de telles comparaisons.
Alors, il y a la question également dans ce royaume de France de celle des grands seigneurs. On est là aussi dans une évolution du pouvoir politique qui fait que le pouvoir féodal est un peu moins fort que ce qu'il a été, mais enfin il est toujours présent. Comment ces seigneurs se comportent avec elle lorsqu'elle est régente? Est-ce qu'ils y voient un moyen d'affaiblir le pouvoir royal pour gagner un peu de leur pouvoir? C'est généralement un peu le problème d'une régence. C'est une occasion pour les grands seigneurs de retirer un petit peu du pouvoir à eux et affaiblir le pouvoir royal.
Oui, en effet, c'est un moment toujours d'instabilité et de danger. Un moment où le roi est trop jeune pour gouverner seul, on essaye toujours de prendre une petite parcelle du pouvoir royal. Et de surcroît, il faut bien voir que les princes du sang sont généralement sont d'éternels mécontents parce qu'ils considèrent toujours que légitimement par leur naissance, ils ont droit à un certain pouvoir et qu'on ne leur en accorde jamais assez. Or, la règle veut que d'ordinaire, la régence soit confiée plutôt à un homme. Alors, il n'y a pas de règle véritablement, comment dire, écrite, mais c'est la tradition qui veut que soit on confie la régence à une reine, soit au premier prince du sang. Donc Louis d'Orléans, duc d'Orléans, premier prince du sang, est en soi légitime pour revendiquer la régence. Mais évidemment, c'est aussi une manière pour tenter de prendre une parcelle de ce pouvoir royal. Et lorsqu'il se dit en rébellion contre Anne de France, qu'il va qualifier de véritable tyran, il est aussi en fait en rébellion contre le pouvoir royal, sans le dire et sans l'admettre.
Et par rapport aux autres royaumes qui environnent le royaume de France, on évoquait tout à l'heure l'Aragon ou l'Angleterre, est-ce que là aussi elle arrive à imposer le pouvoir royal?
Elle a des Anne de France est une femme diplomate. Elle est comme son père, hein. Elle a véritablement hérité de lui pour cela. Elle a des ambassadeurs qui la représentent absolument partout en Europe, hein, qui lui écrivent à elle personnellement, hein, donc ils n'écrivent même pas au roi, ils écrivent à Anne pour la tenir au courant de tout ce qui se passe en Europe. Et donc elle a un véritable réseau en Europe. Elle est en lien avec tous les grands de la Renaissance, hein. Elle écrit notamment à Laurent de Médicis qui lui avait promis une girafe, hein. Et donc elle voudrait bien qu'il lui envoie la girafe qui vient d'Égypte, hein. Voyez-vous, elle est en lien avec même les Hongrois, avec donc, je l'ai dit tout à l'heure, avec le roi de Castille, Ferdinand d'Aragon, elle est en lien avec le roi d'Écosse, ou le fils du roi d'Écosse qui lui demande de l'aide, enfin vous voyez, donc elle est en lien avec toute l'Europe et puis aussi avec toutes les grandes princesses européennes, notamment les princesses italiennes, comme par exemple Isabelle d'Este, qui est donc duchesse de Mantoue, ou marquise de Mantoue, parce qu'excusez-moi, ils deviennent ducs par la suite, également les ducs de Milan ou les duchesses de Milan, etc. Donc elle est en lien avec toute l'Europe.
Qu'est-ce qui change dans la manière de gouverner? Le sous-titre de votre ouvrage, c'est Gouverner au féminin à la Renaissance. Est-ce qu'il y a une conception du pouvoir qui est différente de celle que l'on avait il y a 20 ou 30 ans auparavant, enfin, à la fois du pouvoir et du gouvernement? Est-ce que les conceptions politiques ont évolué?
Dans l'historiographie?
Enfin, pour Anne de France par rapport à ses
Ah.
prédécesseurs?
Ah, pardon. Non, je ne pense pas, puisqu'en fait, Anne de France, c'est à la fois une femme de la Renaissance, on l'a vu, je pense, notamment d'un point de vue artistique, mais c'est une femme qui est véritablement l'héritière du Moyen-Âge, et notamment de Christine de Pisan. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle enracine véritablement la possibilité d'un pouvoir au féminin dans les faits, puisqu'elle est l'une des premières à réussir à exercer le pouvoir pendant de longues années. Le précédent qu'il y a avant elle, c'est Blanche de Castille. On a évidemment la parenthèse d'Isabeau de Bavière, mais qui n'est pas très réussie. Donc en fait, il y a finalement assez peu de femmes qui ont exercé le pouvoir sur une aussi longue durée. Et elle enracine cette possibilité d'une régence. Et juste après elle, Louise de Savoie, mère de François Ier, va se voir attribuer le titre officiel de régente. C'est-à-dire qu'en fait, c'est Anne de France qui a posé les fondements de cette nouvelle institution qui va naître en 1515, à savoir la régence féminine. Pour ce qui est de la question d'un pouvoir féminin, le pouvoir au féminin, il est à la fois très masculin, puisqu'on exerce la politique comme un homme, mais on lui ajoute certaines co composantes essentiellement féminines, comme la diplomatie, éventuellement aussi le discours, l'éloquence, le discours aimable, la présence d'une cour féminine, etc. Mais en fait, ce sont des éléments qui viennent s'ajouter à un pouvoir qui est essentiellement masculin, puisque c'est le pouvoir royal.
À sa mort, où est-elle enterrée et comment sont organisées ses funérailles? Est-ce qu'elle a droit à des funérailles d'une quasi-reine?
Alors, en fait, la fin de la vie d'Anne de France est un petit peu triste parce que elle n'a qu'une seule fille qui va mourir en 1520 assez jeune, en ayant donné naissance à des jumeaux qui sont eux-mêmes morts très rapidement, ce qui fait qu'en fait Anne de France n'a pas d'héritier. Elle va tenter donc dans les dernières années de sa vie de léguer toutes ses possessions et tout le duché à son gendre qui est le connétable de Bourbon, Charles de Bourbon-Montpensier. Ce gendre, donc, eh bien, c'est son seul espoir de voir le duché de Bourbon rester aux mains des Bourbons. Mais Louise de Savoie, mère de François Ier, est aussi une Bourbon par sa mère, et donc elle revendique le duché, et elle fait même un procès qu'elle gagnera dans les années 1527. Donc, à ce moment-là, Anne de France est déjà morte, elle meurt en 1522. On a fait, donc, cette année le 500e anniversaire de sa mort. En fait, ce qui se passe, c'est que donc à la fin de sa vie, il n'y a plus grand monde autour d'elle. Elle vit finalement à Moulins et puis surtout à Chantelle, un château de l'Allier, à la campagne, un château qui existe encore aujourd'hui. Et elle meurt en fait loin de tous, hein, finalement, voyant que de toute façon son duché va être perdu, hein, il sera gagné par Louise de Savoie. Et elle meurt loin de tout le monde, donc dans une humilité totale, avec quelques bougies, nous dit un de ses proches qui a assisté à la chose. Donc on est bien loin des funérailles grandioses d'Anne de Bretagne quelques années avant, et on est aussi bien loin des funérailles quasi-royales de Louise de Savoie quelques années après.
Merci beaucoup, Aubry David Chapy, de nous avoir évoqué cette belle et grande figure d'Anne de France, dont je vous rappelle votre biographie aux éditions Passé Composé, Anne de France, gouvernée au féminin à la Renaissance.